Georges Courteline, Messieurs les ronds de cuir, premier tableau. À l'angle du boulevard Saint-Germain et de la rue de Solferino, un régiment de cuirassiers qui regagnait au pas l'école militaire força l'arrié à s'arrêter. Il demeura les pieds au bord du trottoir, ravi au fond de ce contresens imprévu qui allait retarder de quelques minutes encore l'instant désormais imminent de son arrivée au bureau, conciliant ainsi ses goûts de flâne avec le cri indigné de sa conscience. Simplement, car l'énorme horloge du ministère de la guerre sonnait la demie de 2 heures, il pensa « Diable, encore un jour où j'arriverai pas à midi !» Et les mains dans les poches, achevant sa cigarette, il attendit la fin du défilé. Au-dessus de lui, c'était l'éblouissement d'un après-midi adorable. Comme il advient tous les ans, Paris, qui s'était endormi au bruit berceur d'une pluie battante, s'était réveillé ce matin-là avec le printemps sur la tête, un printemps gai, charmant, exquis, tout frais débarqué de la nuit sans avoir averti de sa venue, en bon provincial qui arrive du midi, tombe sur les gens à l'improviste et s'amuse de leur surprise. Par-delà les toits des maisons, derrière les hautes cheminées, le ciel d'avril s'étendait d'un bleu profond et sans un nuage, perdu au loin dans une grisaille brumeuse. Une immense nappe de soleil balayait d'un bout à l'autre la chaussée blondie du boulevard, dont les fenêtres à l'infini miroitaient comme des lames d'épée, et sur l'asphalte des trottoirs, les ombres jetées en biais des platanes et des marronniers semblaient des bâtons d'écoliers tracés par une main géante. L'arrayé, mis en joie dès le matin au seul vu d'un reflet cuivré se jouant par la cretonne fleurie de son rideau, avait déjeuné en 2 temps auprès de sa fenêtre ouverte, puis, tourmenté de l'impérieuse soif de sortir sans par-dessus pour la première fois de l'année, il avait de son pied léger gagné la place de l'Opéra, remonté le boulevard jusqu'à la rue Drouot, le long des arbres déjà encapuchonnés de vert tendre, faisant le gros dos sous le soleil, dont la bonne tiédeur lui caressait l'épaule à travers l'étoffe du vêtement. Mais comme il revenait sur ses pas, talonné par l'heure du travail, équitablement partagé entre le sentiment du devoir et son amour du bien-être, brusquement il s'était rappelé n'avoir pas pris de café à son repas, et devant cette considération, il avait imposé silence à ses scrupules. Le ministère pouvait attendre, aussi bien était-ce l'affaire d'une minute. Et il s'était attablé à la terrasse du café riche. Le malheur est qu'une fois là, le chapeau ramené sur les yeux, le guéridon entre les genoux, l'arrié s'était trouvé bien. Il s'était senti envahi d'une grande lâcheté de tout l'être, d'un besoin de se laisser vivre, tranquillement, sans une pensée, tombé à une mollesse alanguie et bienheureuse de convalescent. Dans sa tasse emplie à ras-bord, un prisme s'était allumé, tandis que le flacon d'eau-de-vie projetait sur le glacis de la tôle une tache imprécise et dansante au ton rouge de passe brûlée. Et vite, à sa jouissance intime, de lézard haletant au soleil, dans l'angle échauffé d'un vieux mur, quelque chose s'était venu mêler. Une vague velléité de demeurer là jusqu'au soir, à se rafraîchir de bière claire, en regardant passer les printanières ombrelles, la vision entreaperçue d'une journée entière de paresse, inévitablement compliquée d'un lâchage en règle du bureau. Une irritation sourde avait germé en lui, sans qu'il s'en fût rendu compte, une rancune contre l'administration, cette gêneuse empêcheuse de danser en rond, qui se venait placer entre le beau temps et lui, comme pour donner un démenti malgré la loi et les prophètes à la clémence infinie du bon Dieu. Et pourquoi faire ? Oh, dans la bonté houleuse de son indignation, volontiers, il eût arrêté les passants pour leur poser la question, en appeler à leur bonne foi de cet excès d'iniquité, leur demander si véritablement c'était une chose raisonnable qu'on le vînt dépouiller ainsi de son droit au repos, à la brise d'avril, à la pureté immaculée de l'azur. Longtemps, longuement, pitoyablement, il avait haussé les épaules. Ah, si ce n'est pas une calamité! Son amertume s'était soudainement aigrie. La direction des dons et laits dut passer un joli quart d'heure. Oh! Mais parlons-en, quelque chose de beau, la direction des dons et laits. Une boîte absurde, seulement créée pour les besoins de la cause, à seule fin de donner pâture à la voracité de quelques affamés. Mais sans but, sans vue, sans une ombre de raison d'être. À ce point, contre les ministres, c'est la lutte continuelle à qui ne l'aura pas. Tour à tour, c'est la chancellerie qui se récuse et la renvoie à l'instruction publique. L'instruction publique qui se défend et la repousse sur le commerce. Le commerce qui proteste et la refoule sur l'intérieur. L'intérieur qui ne veut rien savoir et la rejette sur les finances et ainsi jusqu'au jour où un homme charitable veut bien la prendre à sa remorque et se la joindre par pitié. Enfin, une vraie comédie, une allée et venue de volants lancés de raquette en raquette. Avec ça, pas le sou. Des promesses tout le temps, un misérable budget de quelques centaines de mille francs, que la chambre par surcroît de bonheur allège d'année en année. Oh, c'est un rêve. Une fois entré dans cet ordre d'idées, l'employé, comme bien l'on pense, n'avait eu garde de s'attarder aux bagatelles de la porte. En somme, s'il le voulait attendre, le mystère pouvait également se passer de lui, et à cette conclusion prévue, il avait eu un mince sourire, goûtant l'exquis soulagement qui suit les déterminations longuement discutées, enfin prises. Mais, à la réflexion, « Eh, parbleu, non, au fait, je ne pensais pas à cela, moi. Ah, la salle des veines! Faut-il que j'aie été bête ?» La vérité est que la veille, il s'était déjà abstenu, retenu à la dernière minute, comme il allait prendre son chapeau, par la violence d'une averse et la tombée inopinée en son appartement de garçon, de Gabrielle, sa maîtresse. Et tout de même, il avait bien fallu qu'il s'inclinât, qu'il fît son deuil de ses projets, pris d'un trac qui d'avance lui gâtait son plaisir à l'idée d'une double bordée tirée sans mot plausible. En moyenne, il faisait le mort une fois la semaine, sans que l'administration, bonne bête, eût l'air de s'en apercevoir. Mais la question était de savoir jusqu'à quel point tiendrait devant l'abus une tolérance faite en partie d'inertie et d'habitude prise. Surtout que depuis quelque temps, M. de la Hournerie, son chef, changeait d'allure à son égard, affectait ses lendemains d'absence, une raideur sèche et mécontente, s'enfermait en un de ces mutismes qui désapprouvent, secrète perfidement autour d'eux la gêne des situations fausses point éclaircies. Et c'est pourquoi, convaincu encore que navré, il s'était pourtant décidé à régler sa consommation et lentement s'était acheminé vers son poste par la place des Pyramides et les Tuileries. À la tristesse morne de la rue Vanneau, la direction générale des dons et laits ajoute la noire tristesse de sa façade sans un relief et de son drapeau dépenaillé tourné à la loque déteinte. Au-dessus du porche colossal qu'elle chevauche illégalement, voûte profonde où le perpétuel courant d'air galope à travers la pénombre, elle étage trois rangs de funèbres fenêtres, si étroite et si haute qu'elle semble écrasée entre les épaisseurs rembourrées de leurs volets. Plus haute encore, empiétant de leur base vermoulue jusque en une gouttière formidable d'où l'été pleut une ombre épaisse, l'hiver, la coulée lente des neiges entassées, six mansardes alignées de front s'enlèvent sur le ciel en créneau. Vue de loin, de la direction des cultes, sa voisine, elle paraît une sombre lézarde aux murs laiteux des hôtels Capricciani et la Marèse Saint-Gratien, qui de droite et de gauche la flanquent. De près, elle a la mélancolie pénétrante des choses, la grotesquerie attendrissante d'une pauvre vieille fille sans gorge, au teint de boue haché de gerçure. Et par ses vitres exiguës, closes sur le noir éternellement, elle répand une désolation de maison abandonnée ou que viendrait visiter une brusque attaque de choléra. Il semble qu'à travers ces épaisses murailles passe, transpire, s'évapore, pour en infester le quartier, la solitude glaciale de ces interminables corridors aux dalles sonores que lèche du matin au soir la lueur agonisante d'un gaz mi-baissé. Sans qu'on sache au juste pourquoi, on devine le vide immense de cette caserne, la non-vie des 30 ronds de cuir noyés dans son vaste giron. On pressent le silence sinistre de ses bureaux inoccupés et de ses archives lambrissées. Catacombes administratives qu'emplit tantôt un froid de glace, tantôt une chaleur d'étuve, et où dorment pêle-mêle sous un même linceul de poussière des ballots de dossiers entassés, des chaises éventrées, des cartons en lambeaux, jusqu'à des chenets et à des chaussures moisies, toute une saleté de matériel hors d'usage, amenée là à coups de balai des quatre coins de la maison, et achevant d'y pourrir en paix, dans une promiscuité dernière. Mixte, bâtarde, équivoque, d'une austérité de monastère que mitigerait la banalité d'un magasin à fourrage, elle est juste au ministère ce que l'institution paix de loup est au lycée. Elle sue son inutilité, elle la crie aux passants convaincus. Elle est comme ces gredins malchanceux qui portent leur scélératesse sur leur visage et dont le regard louche édifie. Seul le portier égaye la situation de sa tête de chimpanzé officiel qu'écrase l'ampleur phénoménale d'une casquette officielle aussi. Justement, il fumait sa pipe sur le trottoir quand l'arrié déboucha de la rue Bellechasse. Il lui tourna le dos aussitôt, regarda dans la direction opposée, histoire de ne pas le saluer au passage. Il geignait. 3h-20, bon, c'est à tuer, un être pareil. Il le tenait en mépris, hautain, écœuré dans sa droiture de fonctionnaire consciencieux, qu'honore la fidélité au devoir, le zèle à tirer le cordon et l'attachement bien connu aux institutions qui nous régissent. L'arrié passa outre, franchit le porche, s'engagea dans le tire-bouchonnement d'un escalier de service spécialement affecté à l'usage du personnel. Il atteignait le troisième palier lorsque Ovid, son garçon de bureau, sortit du chenil ténébreux qui l'abritait. Un trou infect, sans air, creusé à même la muraille et où des cuivreries de lampes bastiquées allumaient tout au fond une série d'étoiles. « Chez le chef, » dit ce serviteur laconique. L'arrié étonné s'arrêta. « Quoi ?» Ovid daigna s'expliquer. « Oui, il y a le chef qui a dit comme ça que vous alliez lui parler, sitôt que vous seriez ici. » Le jeune homme flaira une tuile. De son mieux, il réprima un geste de contrariété. « Ah bon, parfaitement, merci. » Et en levant son chapeau, « Bien aimable, Ovid, si ça ne vous fait rien, de me garder ça une minute. » Déjà, il était loin, il frappait discrètement à la porte de son chef. Une voix lui cria « Entrez !» Il obéit. Plus vaste qu'une halle et plus haut qu'une nef, le cabinet de M. de la Hourmerie recevait par trois croisées, le jour douteux pourtant, de la cour intérieure qu'emprisonnaient les quatre ailes de la direction. Derrière un revêtement de carton vert aux coins usés, au ventre solennel et rond des notaires aisés de province, les murs disparaissaient des plinthes aux corniches, et l'onctueux tapis qui couvrait le parquet d'un lit de mousse ratondue, le bûcher qui flambait clair, et la cheminée, l'ample chancelière où plongeaient à côté pied de monsieur de la Hommerie, trahissait les goûts de bien-être, toute la douilletterie frileuse du personnage. Blanvilliers s'était avancé. Je vous demande pardon, monsieur, dit-il avec une déférence souriante. Il y a 2 heures que je suis ici, et cet imbécile de vide sans seulement m'avertir que vous m'avez fait demander. Couché en avance sur sa table, consultant une demande d'avis qui l'écrasait de sa myopie, M. de la Hourmerie prit son temps. À la fin, mais sans que pour cela il s'interrompît dans sa tâche, « Vous n'êtes pas venu hier, » dit-il négligemment. « Oh non, monsieur, » répondit Larrier. « Et pourquoi n'êtes-vous pas venu ?» L'autre n'hésita pas. « Oh, j'ai perdu mon beau-frère. » Le chef, du coup, leva le nez. « Encore ?» Et l'employé, la main sur le sein gauche, protestant bruyamment de sa sincérité, « Non, non, pardon, voulez-vous me le permettre ?» s'exclama M. de la Hommerie. Rageur, il avait déposé près de lui la plume d'oie qui, tout à l'heure, lui barrait les dents comme un mort. Il y eut un moment de silence, la brusque accalmie grosse d'angoisse, préludant à l'exercice périlleux d'un gymnaste. Tout à coup, « Alors, monsieur, c'est une affaire entendue, hein, parti pris de ne plus mettre les pieds ici. À 7 heures, vous avez perdu votre beau-frère, comme déjà il y a 8 jours, vous aviez perdu votre tante, comme vous aviez perdu votre oncle le mois dernier, votre père à la Trinité, votre mère à Pâques, sans préjudice, naturellement, de tous les cousins, cousines et autres parents éloignés que vous n'avez cessé de mettre en terre à raison d'un au moins la semaine. Quel massacre, non mais quel massacre! A-t-on idée d'une famille pareille? Je ne parle ici, notez bien, ni de la petite sœur qui se marie 2 fois l'an, ni de la grande qui accouche 3 mois. Eh bien, monsieur, en voilà assez. Que vous vous moquiez du monde, soit, mais il y a des limites à tout. Et si vous supposez que l'administration vous donne 2 400 francs pour que vous passiez votre vie à enterrer les uns, à marier les autres ou à tenir sur les fonts baptismaux, vous vous méprenez, j'ose le dire. » Il s'échauffait. Sur un mouvement de Larrier, il ébranla la table d'un furieux coup de poing. « Sacré Dieu, monsieur, oui ou non, voulez-vous me permettre de placer un mot ?» Là-dessus, il repartit. Il mit son cœur à nu, ouvrit l'écluse au flot amer de ses rancunes. Il flétrit l'improbité. L'improbité, parfaitement, je maintiens le mot. 2 employés amateurs, sacrifiant à leur coupable fainéantise la dignité de leurs fonctions, jusqu'à laisser choir dans la déconsidération publique et dans le mépris sarcastique de la foule l'antique prestige des administrations de l'État. Il s'attendrit à exalter la direction des dons et laits, la grande bonté du directeur, les traditions quasi-familiales de la maison. Une phrase en amenait une autre. Il en vint à envisager le fonctionnement de son propre bureau. « Vous êtes ici 3 employés attachés à l'expédition, vous, Monsieur Soupe et Monsieur Letondu. Monsieur Soupe en est aujourd'hui à sa 37e année de service. » Et il n'y a plus à attendre de lui que l'épreuve de sa vaine bonne volonté. Quant à M. Letondu, c'est bien simple, il donne depuis quelques semaines des signes indéniables d'aliénation mentale. Alors quoi? Car voilà pourtant, nous en sommes, il est inouï de penser que sur 3 expéditionnaires, l'un soit fou, le 2e gratteux et le 3e à l'enterrement. « Ça a l'air d'une plaisanterie, mais nous nageons en pleine opérette. »« Et naïvement, vous vous êtes fait à l'idée que les choses pouvaient continuer de ce train ?» Le doigt secoué dans l'air, il conclut. « Non, monsieur, j'en suis là, moi, des enterrements et des catastrophes soudaines et des ruptures d'anévrisme et des gouttes qui remontent au cœur et de toute cette turlupinade » de laquelle on ne saurait dire si elle est plus grotesque, lugubre ou plus lugubre que grotesque. C'en est assez. C'est assez, vous dis-je. Je vous dis que c'en est assez sur ce sujet. Passons à d'autres exercices. Désormais, c'est deux choses l'une. La présence ou la démission, choisissez. Si c'est la démission, je l'accepte. Je l'accepte au nom du ministre et à mes risques et périls. Est-ce clair? Si c'est le contraire, vous voudrez bien me faire le plaisir d'être ici chaque jour, sur le coup 11 heures, à l'exemple de vos camarades, et ce à compter de demain. Est-ce clair? J'ajoute que le jour où la fatalité, enfin cette fatalité odieuse qui vous poursuit, semble se faire un jeu de vous persécuter, viendra vous frapper de nouveau dans vos affections de famille, je vous ferai flanquer à la porte. Est-ce clair? D'un ton dégagé où perçait une légère pointe de persiflage. Parfaitement clair, dit Larrier. À merveille, fit le chef, vous voilà prévenu. Et vous savez, n'ayez pas l'air de vouloir faire le malin ou ça va. Il s'interrompit, averti par un hum discret d'une présence insoupçonnée. Larrier, du même coup, avait tourné la tête, et tous deux, ils fouillaient le lointain de la pièce, où se dandinait, saluant les murs de droite et de gauche, un petit vieux monsieur, au crâne nu, au visage mangé de barbe grise. Peut-être avait-il toqué, sans que la timidité de son appel noyé dans le bruit de la discussion fût parvenu aux oreilles intéressées. Le fait est qu'il se trouvait là, rivé au sol avec la contenance gênée de l'homme tombé mal à propos dans une discussion de ménage. Assez sèchement, vexé à la vérité, d'avoir été surpris lavant son linge sale. Qui êtes-vous, monsieur, et qu'est-ce que vous voulez ? Demanda de sa place monsieur de la Hourmerie. Le petit vieux monsieur répondit je vous prie de m'excuser, monsieur, le chef du bureau des laits, s'il vous plaît. C'est moi-même. Cette révélation détermina chez le visiteur une brusque projection en avant de toute la partie supérieure de son être. Presque il baisa la terre dans son empressement de courtoisie. Et un instant, par le bâillement postérieur de son faux col, on distingua sa nuque en forme de gouttière, la naissance de son échine baignée de mystérieuses pénombres. Immédiatement, il s'était mis en branle. Il semblait qu'il marchât sur une couche de beurre, tant ses pieds sonnaient peu au moelleux du tapis. Il se nomma. « Je suis le conservateur du musée de Vannes-en-Bresse. » Quelque volonté qu'il eut de se contenir, monsieur de la Hourmerie changea de couleur, et, tandis que lui venait aux lèvres le mot « Prenez donc une chaise !» la pensée lui vint de l'esprit. « Sacré dier, le lait qui bolle !»« Et cette brute de Van der Anger qui a égaré le dossier !» Car en ces temps, proches des nôtres, florissait à la direction des dons et laits le sous-chef Van der Hogen, personnage épique s'il en fut, et dont nous ne saurions, sans risquer de manquer gravement nos devoirs, ne point crayonner en ses pages la pittoresque silhouette. Bourré de grec, bourré de latin, bourré d'anglais et d'allemand, ex-élève sorti de l'école des langues orientales, et absolument incapable avec ça de mettre sur leurs pieds 20 lignes de français, Théodore Van der Hogen évoquait l'idée d'une insatiable éponge de laquelle rien n'eût rejailli. Tour à tour, il avait parcouru, comme sous-chef, chacun des 8 bureaux de la direction, sans que jamais on eût pu obtenir de lui autre chose qu'une activité désordonnée et folle, un sens du non-sens et de la mise au pillage, qui lui faisait retourner comme un gant et rendre inextricable du jour au lendemain un fonctionnement consacré par de longues années de routine. Il s'abattait sur un bureau à la façon d'une nuée de sauterelles, et tout de suite, c'était la fin, le carnage, la dévastation. la coulée limpide du ruisselet que la chute d'un pavé brutal a converti en un lit de boue. Le seul fait de sa présence affranchissait tout un petit monde d'employés, superflu de cet instant même et n'ayant plus qu'à se croiser les bras devant l'effondrement sinistre de ce qui avait été leur service. À la fin, M. de la Hourmerie, cédant aux supplications de ses collègues, avait consenti à se l'adjoindre, et comme on abandonne un objet inutile aux pattes meurtrières d'un gamin, il lui avait donné la gestion des affaires classées. Là, au sein même du dieu papier, que Van der Hogen était bien! Libre de nager, de patauger, de s'ébattre en une pleine mer de documents officiels, de débats jurisprudentiels, de rapports administratifs accumulés les uns sur les autres depuis les premiers âges de la direction, il passait d'esquisse journée à galoper de son cabinet aux archives, où il s'éternisait inexplicablement et d'où il revenait blanc de poussière, pressant sur son plastron de ses mains de charbonnier des dossiers que visiblement il avait dû aller chercher à plat ventre sous les arêtes aiguës des toits embroussaillés de toiles d'araignée. Il avait apporté une échelle double, du haut de laquelle, souriant et âpre, il fouillait les recoins de la pièce, sondant de coups de poing le plafond et les murs, avec l'espérance que peut-être d'autres documents jailliraient encore. Sur sa tête à demi vénérable déjà, d'antiques cartons arrachés violemment à l'étreinte de leurs alvéoles s'ouvraient, lâchant des avalanches de paperasse qui se répandaient par le vide, pareils à des vols d'albatros pour se venir écouler en morceaux sur le sol. Mais il ne s'en effarait pas, ravi plutôt, chez soi au cœur de ce pillage et gardant, du haut de son perchoir, une face silencieusement rayonnante. Et quand enfin, autour de lui, c'était le triomphe du chaos, l'orgie auguste du pêle-mêle, l'enchevêtrement définitif et à tout jamais incurable, Van der Hogen prenait sa plume et documentait à son tour, lancé maintenant dans des flots d'encre. Entre deux murailles de dossiers équilibrés à chaque extrémité de sa table et que le passage de voitures agitait de grelottements inquiétants, il couvrait de sa large écriture d'innombrables feuilles de papier qu'il envoyait par charté au visa directorial et qu'on retrouvait au lieu le lendemain matin. Tartine extraordinaire où se voyaient favorablement accueillies les revendications d'obscurs collatéraux enterrés depuis des années, ou des notaires envoyés à Toulon en 1818 pour faux en écritures authentiques étaient signalés au parquet comme coupables d'infraction à des circulaires abrogées. Il brochait ses âneries d'une main convaincue, s'interrompant de temps en temps pour brandir à travers l'espace des bâtons enflammés de cire rouge, abattre au hasard du papier des coups de timbre secs formidables qui sonnaient comme au creux d'une caisse, les coups de marteau d'un emballeur. Il regrimpait à son étage, en redescendait aussitôt, s'en retournait ensuite aux archives, pour de là rappliquer chez le bibliothécaire une vieille bête que tuait de chagrin à petit feu ses façons de charcuter le Dalloz, le recueil des avis du Conseil d'État et la collection de l'officiel. Il bouleversait la direction de son importance imbécile. Son inlassable activité était celle d'un gros hanneton tombé au fond d'une cuvette. Mystérieux, solennel, profond, il détenait des secrets d'État, il n'avait pas son semblable pour demander aux gens « Comment vous portez-vous ?» de la même voix dont il leur eût jeté à l'oreille « Vous voudriez pas acheter un joli jeu de cartes transparentes ?» Son fort, pourtant sa véritable spécialité, c'était s'immiscer sournoisement dans les choses qui ne le regardaient pas. La confiscation à son profit du travail de ses collègues. Ceci pour montrer ses talents, son chic unique, à faire jaillir la lumière en démêlant en un clin d'œil des écheveaux d'affaires compliquées sur lesquels employés et chefs avaient sué sang et eau des mois. Et le fait tel qu'il excellait, comparablement à pas un dans le bel art des solutions promptes, ainsi qu'il en appert clairement au surplus des faits que nous allons compter. En janvier 1890, un sieur Quibolle, Grégoire Victor, décédait à Vannes-en-Bresse, dans l'Ain, léguant au musée de cette ville une paire de jumelles marines et deux chandeliers Louis XIII. 2 ans plus tard, l'affaire n'avait pas fait un pas. Ballottée de cartons en cartons, elle flottait par les bureaux des dons et laits, tiraillée comme à 2 chevaux entre les 2 avis radicalement contraires, de l'autorité ministérielle et de l'autorité préfectorale, concluant l'une au rejet du lait, l'autre à son acceptation. Le pire était que 2 députés ennemis avaient pris la chose à leur compte et tiraient dessus, chacun dans un sens, avec menace de créer des complications au cabinet si le litige n'était tranché, inversement à l'avis de l'autre. Le tout au grand chagrin du conservateur légataire, inondant la direction de rappels désespérés et hurlant après son bien comme un chien de garde après la lune. Saisi de la question, le Conseil d'État hésitait, discutait le point de savoir lequel au juste d'un lait proprement dit ou d'une charge d'hérédité non sujette à l'approbation du gouvernement constituait la libéralité Quibolle. Et le débat en était là quand Van der Hogen intervint. Une fois qu'il passait devant la porte ouverte du rédacteur Chavarax, il aperçut le bureau vide et sur la table un dossier gigantesque de la hauteur d'une cage à serins. Sauter dessus, s'en emparer comme d'une proie et l'emporter en son repère fut pour lui l'affaire d'un instant. Accompli à l'insu de tous, l'opération réussit à merveille et 1 heure après, pas 2, 1, la question était tranchée. Entre les mains secouées de zèle du terrible Van der Hogen, une à une les pièces du dossier, s'en étaient allées, Dieu sait où, voir si le printemps s'avançait. Celle-ci lâchée sur la province afin de complément d'instruction, celle-là emmêlée par erreur à des pièces d'autres dossiers, d'où un micmac de paperasse a défié un cochon d'y retrouver ses petits et l'immobilisation définitive d'une affaire devenue insoluble. Et M. de la Hourmerie, pris au dépourvu, n'en fut pas moins très remarquable d'une audace tranquille qui stupéfia l'arrié. « Monsieur, dit-il, l'affaire a été soumise il y a 8 jours à l'examen du Conseil d'État. Mais peu importe, veuillez vous asseoir, je vous prie. Vous veniez pour vos chandeliers. » « Oui, monsieur, dit le conservateur, et pour ma jumelle marine. » C'était vrai. À bout de patience et cœuré de vaines attentes, il s'était enfin décidé à faire son petit coup d'État en venant à Paris lui-même disputer aux lenteurs administratives son humble part du lait qui bolle. Et il compta que depuis 20 minutes, il errait, triste chien perdu par les tortueux dédales de la direction. Bien sûr, il ne se plaignait pas, mais à ses étranges sourires, à ses mots qu'il ne trouvait pas, à ses phrases pudibondement interminées, on reconstituait les dessous de sa lamentable odyssée. On pressentait sur quels extraordinaires locaux il avait dû pousser des portes. Combien de corridors enchevêtrés avaient vu et revu sa mélancolique silhouette aux épaules voûtées un peu déjà par l'âge. Il se justifia d'ailleurs. « Oh, je vous demande 1000 pardons, monsieur, de venir ainsi vous troubler au milieu de vos occupations. Même ma situation toute spéciale me fera excuser, je l'espère. Il faut vous dire qu'en me nommant à Vannes-en-Bresse, monsieur le ministre des Beaux-Arts ne m'a pas, comment dirais-je, exceptionnellement favorisé. Mon Dieu, non. À beaucoup près, même. Le musée de Vannes-en-Bresse, en effet, n'est pas des plus intéressants. Certes, dire qu'il n'y a rien à y voir serait de l'exagération. En somme, il possède plusieurs tableaux de maîtres, des copies naturellement, une belle collection d'insectes et des bocaux de produits chimiques, ce qui est déjà quelque chose. Vous comprenez pourtant à quel point cette jumelle et cette paire de chandeliers, objets d'un haut intérêt, sont pour moi une bonne fortune. Larrier s'amusait follement. Il eut payé 20 francs de sa poche pour assister à la fin de l'entrevue, tant l'égayait et l'attendrissait à la fois la pauvre figure du conservateur. Roublard, ayant vu du coin de l'œil son congé qui se formulait sur la bouche à demi ouverte de son chef, il prit carrément la parole. « Oh, l'affaire, dit-il, est si bien au Conseil d'État que c'est moi qui l'y ai envoyé. » Puis, sur la question faite d'une voix tremblante, « Puis-je du moins espérer une solution prompte ?»« Oh, incessante, déclara-t-il, j'oserais presque dire immédiate. » Qu'il fût payé de son aplomb, au mot « immédiate », l'œil du conservateur s'était enflammé comme une torche. Un indéfinissable sourire de cupidité satisfaite avait illuminé sa face. Il bégaya. « Oh, fort bien, oh, fort bien, parfaitement, mon Dieu, que je suis aise de ce que vous me dites là !» Les mots ne se présentaient plus. Il était trop heureux, cet homme. Déjà, il tenait son bien. Il l'emportait ainsi qu'une proie, et un rêve lui montrait sa vieillesse chargée de gloire. Des quatre extrémités du monde, il voyait des populations affluer à son petit musée, se masser muettes d'admiration devant la jumelle marine et les deux chandeliers Louis XIII. Oh, en effet, fit alors M. de la Hourmerie, que le joli toupet de l'expéditionnaire avait démonté un peu. « La section ne saurait tarder à se prononcer, et je n'attends que le retour du dossier pour soumettre la signature du président de la République le degré d'autorisation. Si monsieur, et il souligna, qui est si exactement renseigné, veut bien faire dès à présent le nécessaire, nul doute que je sois en état de vous satisfaire rapidement. » Larrier se disait, cette fois, ça y est. Il chercha un mot heureux, un de ces mots qui couvrent la honte des défaites, mais ne trouvant rien, il salua et sortit, accompagné jusqu'à la porte de la voix doucement éplorée du citadin de Vannes-en-Bresse insinuant. « Oh, j'aurai donc l'honneur de vous revoir, monsieur le chef de bureau. Je suis à Paris pour quelques jours, et si, naturellement, je pouvais repartir avec mes ampliations. »